Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
22h55, vous êtes sur RMC. En mode spécial ce soir, puisqu'on l'a appris il y a quelques heures maintenant, le décès de Pelé, qui avait été admis à l'hôpital Albert Einstein le 29 novembre dernier pour une infection respiratoire liée au Covid, qui suivait un traitement dans sa lutte contre le cancer du côlon. Il est décédé à l'âge de 82 ans au Brésil. Il sera inhumé dans les prochains jours à Santos, quartier de São Paulo, au Brésil. Un after avec Daniel Riolo, toujours parmi nous. Salut Daniel.
Salut Nico, salut tout le monde, salut.
Flo Gautreau également nous a rejoint, salut Flo.
Salut, salut à tous, salut Daniel, Nico et aux amis du Bémol aussi, bien sûr.
Bien sûr, je vous rappelle les résultats de ce soir, hein. Montpellier est allé gagner 2-0 à Lorient.
Même sur Pelé, peut mettre un bémol ou pas, Flo Gautreau, en cherchant bien, il va pouvoir le mettre, non?
Oui, je vais t'en trouver un.
Attends, il va chercher quand même.
Non, après... je l'ai déjà, mais je voulais pas gêner le sommaire de Nico.
Alors, va juste donner les résultats, supporters des clubs de Ligue 1, notamment supporters de Pelé, enfin, supporters tout court d'ailleurs du football. On vous attend au 32-16 pour revenir sur le décès de Pelé. Sur les matchs de soir, Montpellier s'est imposé 2-0 à Lorient, victoire de Reims 3-1 face à Rennes, Marseille vient de s'imposer 6-1 face à Toulouse et 0-0 entre Nice et Lens. On va y revenir dans quelques instants. Juste vous dire que Marseille est 3e avec 2 points d'avance sur Rennes, du coup, et avec 4 points de retard sur le Racing Club de Lens. On est obligé d'ouvrir par ça, messieurs, d'y revenir. Le décès de Pelé, Flo, tu étais avec nous tout à l'heure il y a quasi 2 heures. Comment tu as réagi en apprenant la nouvelle, même si on s'y préparait ces derniers jours,
hein? Oui, on s'y préparait, mais c'est un truc assez intéressant dans la transmission qu'on peut donner du football à nos enfants, aux plus jeunes. Parce que pour nous, qui avons été jeunes, mais on a connu Pelé quelque part, on nous l'avait expliqué, parce qu'on a cherché à savoir qui c'était. Dans les images Panini, il y avait des dans les fins d'albums, il y avait des trucs sur la Coupe du Monde 70, donc moi, en tant que fan de foot, je suis allé rechercher des choses, j'ai revu des buts. Mais aux jeunes d'aujourd'hui, il faut aller leur remontrer ces images-là. Et c'est pas forcément gagné. Et je me suis dit, depuis quelques jours, il va falloir quand même réexpliquer ce qu'était Pelé, le patrimoine qu'il laisse, et surtout la modernité qu'il laisse. Parce que si tu regarde Pelé, on va dire au mi-temps des années 70 ou un peu avant, avec cette première Coupe du Monde en couleur là, tu sais, la plus belle de toutes, 70. Et d'ailleurs, j'ai appris à l'occasion le premier album Panini aussi, donc c'est assez marrant parce que c'est toute une culture. Bah, t'as déjà un type de jeu, un type de joueur que l'on adorera par la suite avec Maradona, que l'on adorera par la suite avec Messi, que l'on adore en ce moment avec Mbappé, qui est une sorte de fulgurance, de technique et des gestes. Le dribble derrière la jambe d'appui, la fin de corps qu'on revoit effectivement depuis, mais il avait tout inventé en 1900 avant même, hein, 56, 57, 58, et puis après ça s'est développé et ça a été vu en Mondovision en 1970. Donc c'est la transmission qu'il faut faire, c'est d'essayer d'aller revoir tout ça, d'aller remontrer toute cette
précurseur de Pelé. C'est pas dur, Flo, puisque l'année dernière, Netflix nous a proposé un très beau documentaire.
Avec Pelé, d'ailleurs.
Où, justement, ces images ont été ressorties, elles existent. Et ça permet vraiment de comprendre tout ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, dans un premier temps, la difficulté de comprendre la valeur d'une personnalité qu'on n'a pas vue. C'est toujours ça qui est très difficile, parce que sur Maradona, il y a beaucoup de films, beaucoup de documentaire. Platini, on l'a vu parce que c'était nous, la télé, on est dans une autre époque. Et Pelé, c'est 70. La révolution, le foot en couleur, la Coupe du Monde qui a marqué les esprits, la nouvelle ère du football, le numéro 10 qui éclate, ce numéro qui devient autre chose qu'un simple numéro. Mais il y a, comme tu l'as dit, tout ce qu'il y a eu avant. Et tout ce qu'il y a eu avant jusqu'à 70, eh ben dans ce doc, c'est très bien montré. Donc les jeunes qui veulent vraiment s'intéresser à l'histoire du football et qui veulent ranger un peu leur bibliothèque de souvenirs et de culture foot, je leur conseille d'aller le voir, comme ils ont pu voir, je l'espère, les docs sur Maradona ou les matchs de Platini et les docs qui existent aussi sur Johan Cruyff pour parler des légendes du foot, quoi. Voilà, donc ils peuvent le faire, c'est pas si compliqué que ça, tu vois, Flo.
Et ouais, c'est vrai, et il y a des buts qui ont été, je le disais tout à l'heure aussi dans l'intégrale, la spéciale sur la mort de Pelé, des buts qui ont été reconstitués en 3D parce qu'il manque à l'appel, si tu veux, parce qu'on n'a pas toutes les images évidemment. Et le petit bémol, puisque tu m'en parlais tout à l'heure, en fait, il y en a un que je mets d'ailleurs aussi pour certains autres joueurs actuels, c'est le risque entre guillemets de l'individualisation, et même Pelé allait vers ça, notamment dans son décompte de buts.
Bah, on en parlait tout à l'heure, justement. C'est une obsession pour les stats.
Le délire des stats, on le reproche à Cristiano, on le reproche un peu à Messi pour ses ballons d'or, on le reproche à juste titre, je veux dire, à chaque fois, parce que c'est le risque, tu sais, de.
Mais c'est là où il était moderne, le lien quelque part, finalement.
Bien sûr, exactement. Tu as raison, Nico. C'est que déjà, il était comme ça. C'est-à-dire que déjà, on avait ce reproche-là qui, à l'époque, n'aurait pas dû exister. On était sur des équipes collectives, les Verts de Saint-Etienne, le Bayern, etc. Enfin, je veux dire, dans les années 70. Lui, c'était un peu avant. Et déjà, effectivement, il y avait cette volonté de marquer. Il comptait ses buts, même en match amicaux. On a arrêté un match pendant 20 minutes sur son 1000e but. Un délire qu'on reprocherait, à juste titre, à des joueurs aujourd'hui. Moi, Mbappé, dont je suis un immense fan, eh ben, c'est vrai que parfois, je me dis, attention à trouver l'équilibre avec le collectif. Parce que, évidemment, quand tu penses trop à ta distinction individuelle,
mais cela dit, Flo, c'était le cas à l'époque.
C'était un souci.
Nous, on en parlait tout à l'heure également. Hein. Alors, dans un contexte, j'ai envie de dire politique, était totalement différent. On rappelle, hein, c'était une société, un régime dictatorial, raciste, ségrégationniste à l'époque. Pelé était, enfin, on lui reprochait finalement d'être très égocentré, d'être limite arriviste, d'être très individualiste dans un sport qui était collectif.
Oui, parce qu'il apportait au régime, qui d'ailleurs, le régime du Brésil à l'époque n'était pas complètement convaincu que le football était important et que Pelé pouvait faire parler en bien du Brésil. Il a fallu, et notamment João Havelange à l'époque, insiste en disant mais attendez, rendez-vous compte que le football ça rend les gens heureux et que si les gens sont heureux, bah, on parlera moins de votre régime de dictature. Et merde, comment il s'appelait les dictateurs, Rocha, c'était les Rocha à la dictature du Brésil. Ils se sont converti au football. Parce que le Brésil, ok, c'était un pays de football, mais c'est Pelé qui a transformé encore plus le Brésil en nation ultime du football. Toute la légende du maillot, du maillot jaune, des Oriverde, c'est Pelé qui l'a véhiculé. Parce que avant 70, le Brésil n'est pas plus un pays de football que l'Angleterre ou que d'autres pays ou que l'Allemagne. Mais à partir de ce moment-là, Avec Pelé, c'est comme si le Brésil avait pris le tampon en 70. Ils ont pris le tampon. On est la nation du football. D'abord parce que il y a la troisième Coupe du Monde. Il y a le fameux trophée Jules Rimet qu'on emmène à la maison. Tu sais que c'est quand on gagnait, on avait à l'époque, on disait que quand tu gagnais trois fois le même trophée, tu l'enlevais. D'ailleurs, le trophée Jules Rimet n'a plus existé puisque la nouvelle Coupe du Monde, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle est apparue en 74. Donc tout ce côté légendaire du football au Brésil, c'est Pelé qui l'a emmené. C'est après lui qu'à chaque fois que le Brésil allait sur un terrain, t'avais peur. Tu dis, le Brésil, c'est les plus forts du monde. Quoi qu'il fasse, à partir de Pelé, à partir de 70, le Brésil, c'était les favoris. Il y avait une Coupe du Monde, il y avait une compète, il y avait quoi qu'il y ait, c'était les favoris, c'était le Brésil, le pays du football, le pays du beau jeu, alors que ça l'a pas toujours été, le Brésil. Mais il y avait toujours un artiste, deux, trois mecs techniques, machin. Tout ça, bon, il y a eu avant Pelé, Garrincha, il y a eu des joueurs fantastiques. Mais on va dire que c'est lui qui a transformé le Brésil en grande nation du football, en pays numéro un du foot dans le monde.
Et il y a aussi un truc qui est lié au mot, au nom, qui résonne et qui parle à tout le monde en dehors des spécialistes du foot. C'est-à-dire que ça, c'est très très fort d'avoir depuis des années, il y avait Fangio pour la Formule 1, t'as Pelé, et c'est pas un hasard d'ailleurs si il y a ce lien aussi fort, et moi je le trouve très beau, pour un pays avec des grands sportifs. Tu sais, à la mort de Senna, on se souvient de ce que ça avait déclenché. Ouais, ouais. Pelé, alors il y avait autre chose, parce qu'une mort prématurée, bien sûr. Mais même, quel pays peut, tu vois, à ce point, évidemment comme l'Argentine avec Maradona, peut pleurer même avant sa mort, ces derniers jours.
Bah, le Brésil est devenu un pays dont on a parlé par le football et par Pelé aussi.
Par le foot, par le sport. Je le dis parce que nous qui sommes toujours à la recherche de cette culture, de cette culture sport, ça ne se décrète pas évidemment, mais là voilà, on l'a au Brésil, on l'a senti ces derniers jours. Moi je le disais avec tous ces gens qui craignaient, qui pleuraient déjà la mort de Pelé, parce que on l'a redouté évidemment. Il y avait des photos terribles, très belles d'ailleurs, avec sa famille. Donc c'est sa famille qui avait souhaité les publier sur Instagram, dans sa chambre d'hôpital, qui montrait à quel point les gens étaient déjà en train de veiller leur dieu, leur idole. Bon, c'est vraiment un Là, c'est, on en a tourné des pages hein, tristes ces dernières années avec Maradona notamment. Mais,
bah, on a eu Maradona.
Ouais, mais celle-là, elle clôt quand même quelque chose parce qu'elle a commencé il y a longtemps. Elle nous a accompagnés pendant toute notre jeunesse, notre croissance footballistique. C'est-à-dire que c'était la toile de fond et il y a cette photo
oui,
que
c'était
j'ai
le
mis
père,
sur
en fait.
Le
c'était le père du
c'est
football.
C'est le père du foot, c'est le parrain.
Ouais, c'est
et
ça, ouais.
et cette photo, tu sais, dans les bras de Jair Zinho, j'ai trouvé très beau. Je sais pas si Mbappé et Giroud l'ont fait exprès ou.
Mais tout le monde a même Macron. Tout le monde a repris la même, hein. C'est une photo mythique de l'histoire du sport même, d'ailleurs.
Et j'ai vu quelqu'un qui a dit à juste titre qu'elle avait la même force et la même connotation, notoriété que celle de Mohamed Ali face à Sonny Liston, tu sais, avec ce coup de poing et l'homme au sol. Et c'est ce genre de, faut le dire aussi, c'est des images, puisque Pelé, comme je l'ai dit, on ne l'a pas forcément beaucoup vu jouer, mais c'est beaucoup de tristesse. Et quand tu regardes le Brésil, beaucoup, beaucoup de respect pour ce pays.
Alors justement, on vous tient au courant aussi de ce qui se passe là-bas. Juste petite, c'était Médici à l'époque, hein, le dictateur au Brésil, hein, dans les années 70, le président. Juste, hein, vous donner des informations sur la suite de ce qui va se passer au Brésil. La veillée funéraire aura lieu lundi à Vila Belmiro, donc le stade de Santos, là où a été révélé Pelé, donc qui est décédé aujourd'hui. Alors ensuite, son corps va être, le cercueil va être déposé au centre du terrain du stade pendant plusieurs heures, donc ça sera ouvert au public à partir de 10 heures. Ensuite, il y aura un cortège qui passera devant la maison de sa maman, dans les rues de Santos, du quartier de Santos, à São Paulo. Et ensuite, donc, l'enterrement aura lieu. Alors, il sera réservé à la famille, hein, bien entendu. Alors, il y a toute une logistique, hein, qui se met en place autour de ça. C'est le club de Santos avec les autorités locales, les autorités de São Paulo, qui sont en train de mettre ça en place et qui sont en train de donner des informations sur les divers sites d'information. Mais donc, la veillée funéraire aura lieu lundi. On va accueillir Philippe, tiens, qui nous a appelé au 32-16. Salut Philippe.
Bonsoir.
Philippe, qui est supporter de l'OM, on va parler, hein, de l'OM, hein, dans quelques instants, hein, qui a gagné 6-1 face à Toulouse. Je crois que toi, tu l'as vu jouer, Pelé, tu as eu cette chance, Philippe.
Moi, non, je l'ai pas vu jouer, j'ai assisté au jubilé de Michel Platini, moi j'habite à Nancy. Hein.
D'accord. Ouais.
Et j'ai vu Pelé, j'ai vu Maradona, j'ai vu tous les plus grands. Quoi. Michel, il nous avait offert un jubilé extraordinaire, quoi. Inoubliable. Et j'ai vu Pelé, j'ai vu Maradona, Mataos, Boniek, Cabrini, et puis l'équipe de France de 82, tout ça, Tigana, Michel Hidalgo, tout ça, quoi. Et c'est un souvenir extraordinaire. Bah, Pelé, c'est le plus grand, quoi. C'est
t'as quel âge, toi, Philippe?
59 ans.
D'accord. Donc, et alors, toi, tu l'as vu jouer, Pelé, ou pas?
Non.
59 ans,
c'est un peu de jeu. La première Coupe du Monde que j'ai vue, c'est celle de 74.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Ouais,
trop petit. La Hollande, moi j'étais pour la Hollande, Cruyff, Niskanen, tout ça, quoi.
Et alors Pelé, c'était qui, c'était quoi pour toi?
Oh bah Pelé, c'est le plus grand, quoi. Pour moi, c'est trois Coupes du Monde, et puis j'ai vu des buts, les trois buts qu'il met contre la France en demi-finale, c'est extraordinaire, quoi. La finale de 70, je l'ai revue, c'est la passe qu'il fait à Carlos Alberto, la tête qu'il met, tout, il est extraordinaire, quoi. C'est fantastique, quoi. C'est le plus grand, quoi.
Ouais, et les joueurs qui ont joué contre lui, c'est ce soir grand, vont, moi, vont beaucoup être sollicités pour s'exprimer.
On en a eu quelques-uns, on a eu Alain Giresse, Luis Fernandez notamment.
Ouais, je pense aux joueurs qu'en Italie ce soir, ceux qui étaient sur le terrain pendant la finale de 70, parce que finalement ils étaient là, ils ont été les acteurs du match qui a contribué à écrire la légende. Ils doivent être beaucoup sollicités.
L'équipe de Brésil de 70, c'est la plus belle équipe. Hein.
Ouais.
Oh, c'est sans doute, c'est oui, une équipe de légende. Et je disais un truc tout à l'heure, quand on était déjà ensemble, Nico, c'est ces fameux buts ratés qui sont restés des actions de légende. Vrai, et il se trouve qu'il y en a beaucoup qui sont concentrés, notamment dans cette Coupe du Monde 70, parce que ne serait-ce que dans cette Coupe du Monde, il y a le fameux grand pont sur Mazurkiewicz et qui ne marque pas, enfin, contre l'Uruguay. Il y a le fameux lob sur Victor, le gardien tchécoslovaque, qui ne rentre pas. Et puis, aussi en poule, je crois que c'était contre l'Angleterre, hein, je crois que c'était contre Banks, où il dit j'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté. Et je voulais venir là-dessus aussi sur cette formule, parce qu'il avait déjà aussi ce sens de la com, et du business. Alors, du business plutôt plus tard, parce qu'il en a généré beaucoup déjà avec ce transfert au Cosmos de New York, ce truc hallucinant où ils avaient joué avec Beckenbauer sur les pelouses synthétiques là-bas. Puis après beaucoup de business, mais c'est aussi en ça que c'est un précurseur.
Flo, je te coupe juste en direct, on a Dante en zone mixte hein, au micro de Maxime Tilliette, hein, Nice qui vient de faire match nul 0-0 face à Lens.
C'est une stress, on profite pour souhaiter les sincères condoléances à sa famille, parce que je pense que c'est un moment difficile. Après, au-delà de ça, il faut simplement maintenant le rendre un vrai et grand hommage, parce que c'est un monsieur qui a fait rêver beaucoup de gens et aussi inspiré beaucoup de joueurs qui sont devenus professionnels grâce à lui.
Oui, tu ne l'as pas vu jouer en tant que joueur, mais quelle image on garde de lui au pays? Quelle image toi tu gardes de lui?
Des Coupes du Monde. Il y a eu quand le Brésil il était la troisième fois qu'il était champion, qu'il laisse ses ballons passer pour Carlos Alberto. Il y a eu ses fameux buts de la tête, je ne sais pas, c'est contre la République tchèque, je ne me rappelle pas, c'est qui fait le sombrero et a permis ses débuts exceptionnels. On voit toujours, on voyait comme sa détente, sa façon de jouer avec tous les autres, c'était incroyable. Donc voilà, malgré que j'ai pas vu jouer en live, mais nous Brésiliens on a gardé beaucoup d'images de lui et je me rappelle encore quand j'étais petit, je regardais beaucoup et c'est ça aussi que ça te donne envie de devenir professionnel.
Tu as pu le rencontrer toi?
Oui, une fois aux États-Unis. Oui, on s'est rencontré avant une match d'équipe nationale et c'était un moment aussi pour moi très spécial. Parce que retrouver Pelé dans ma vie, je n'ai jamais imaginé. Et c'était en tout cas quelqu'un très simple, très humble et très accueillant aussi.
Ça va être comment là au Brésil? Est-ce que tu peux nous dire comment va être l'atmosphère du coup? Parce que c'est un homme important, évidemment, très important.
Ah, ça fait que quelques heures qu'il vient de partir. Ça, j'imagine en tout cas qu'ils vont prévoir un gros hommage. Cette date va être marquée négativement pour le sport brésilien, pour le foot brésilien. Et je pense que normalement, ils vont rendre un gros hommage, ils vont renommer des rues Pelé, peut-être des centres de formation, peut-être voir des stades. Parce que je pense que c'est quelqu'un vraiment qui mérite un gros hommage.
C'est un peu, je vais pas dire que c'est paradoxal, mais quand tu as parlé des souvenirs qui te revenaient, on te voyait sourire. On a le sentiment que Pelé, c'est ça reste la joie du foot. C'est...
Bien sûr, quand on voit son histoire autant que jour, quand on voit ce qu'il a fait, c'est incroyable. À 17 ans, qu'est-ce qu'il a fait? C'était les Coupes du Monde qu'il gagnait. Donc voilà, ça fait chaud au cœur de se rappeler de ça parce que. C'est vraiment, je me rappelle vraiment quand j'étais petit, j'ai regardé souvent, je parlais avec mon père, avec mon grand-père, il m'expliquait ce qu'il se faisait. Il parlait de lui, de Carlos Alberto, de Gerson, Rivelino, Garrincha, de tout le monde. Et Pelé, et c'est toujours le principal acteur. Et ça, c'est ça nous motivait aussi pour un jeu devenir footballeur.
Pour toi, il n'y a pas de débat, c'est le plus grand de tous les temps?
Bien sûr. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout son développement. Déjà physique, parce que mine de rien, il y avait une grosse détente. Techniquement, il était, c'était un vrai crack, quoi. Il était très intelligent déjà, c'était incroyable. C'était une légende qui était innée. Tout qu'il faisait, c'était incroyable. Donc voilà, ça restera notre gros idole à vie.
La réaction donc de Dante, le défenseur de Nice en direct hein, au décès de Pelé qui nous a donc quitté aujourd'hui à l'âge de 82 ans. On remercie Philippe hein, qui nous a appelé au 32-16. L'after qui se poursuit dans quelques instants, on va parler un peu de Ligue 1 puisque c'est reparti également ce soir de Marseille notamment qui s'est imposé 6-1 face à Toulouse. Marseille qui fait un joli bond au classement, hein, qui passe devant Rennes, qui prend deux points d'avance sur les Bretons, qui est à 4 points du Racing Club de Lens. 3e place pour les Olympiens, supporters de l'OM, du TFC, de Nice, de Lens, de Reims, Rennes, Montpellier, Lorient. On vous attend au 32-16 avec Daniel Riolo et Flo Gautreau. A tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Nicolas Villas.
23h14, vous êtes sur RMC dans l'After, on est ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau. On vous rappelle la grosse info de cette soirée, le décès de Pelé à l'âge de 82 ans. On va évoquer la Ligue 1, puisqu'il y a eu plusieurs matchs qui sont déroulés ce soir dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Montpellier qui est allé gagner 2-0 à Lorient, victoire de Reims 3-1 face à Rennes, 0-0 entre Nice et Lens, et victoire de Marseille 6-1 face à Toulouse. Marseille qui prend la 3e place à Rennes au classement en conséquence au résultat de ce soir, prennent 2 points d'avance, hein, sur le Stade Rennais. Ils ont 4 points de retard sur la deuxième place et sur le Racing Club de Lens. Quelle impression vous a fait cette équipe de Marseille? Tiens, Daniel, on regardait ce match-là d'un œil en même temps qu'on rendait hommage à Pelé. Festival des Marseillais.
Bah, écoute, la reprise, donc ça a démarré hier. Et quand j'ai commencé à revoir les matchs, on avait commencé par Monaco hier notamment, Lille et...
Il y a eu 3 Nantes 0-0 et le Ajaccio 1-0.
Et je me suis dit, waouh, il y a eu le petit break post-Coupe du Monde. On se fait un peu chier quand même.
Un peu quand même.
Il y a eu une sorte de gros choc. Et aujourd'hui, on a continué à voir la journée de championnat. On a vu Rennes pas bon, dans un match un peu terne. Monaco, donc, c'était hier.
Avec un bon Reims, hein. Je te trouve dur avec le côté terne du match.
Avec le
côté terne.
Le côté terne. Parce que
je parlais de Rennes. En fait, tu sais, avec cette reprise post Coupe du Monde, forcément, tu recolles avec ton championnat et tu reprends là où t'as laissé les gros. Et c'est eux que t'as envie de revoir tout de suite. Tu comprends? C'est ça que je voulais dire. Donc, honnêtement, si on était dans la continuité et qu'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde, tu t'attends pas à ce que Rennes aille perdre à Reims. J'avais très envie de voir Lens aussi. Il y avait Monaco. Enfin, bref, t'as envie de recoller les morceaux avec ce que t'as laissé. Et tous les matchs qu'on a vus, les gros, je mets pas Lyon dedans parce qu'ils sont plus loin au classement, donc je m'intéresse au top 5. Tout le monde est décevant. J'ai été déçu, les matchs étaient pas dingues et tout.
Même le Auxerre-Monaco, c'était pas dégueu comme match,
ouais,
non?
Mais Monaco, franchement, ils s'en sortent avec les deux buts.
Ouais, mais moi, je trouve que ça, ils font un bon match aussi, tu vois.
Moi, Monaco, je les ai pas trouvés très dingues. Ils s'en sortent parce que l'autre, le petit jeune, là, fait le premier match de sa vie et se révèle dans ce match-là avec une action individuelle, quoi. Mais, et arrivé l'OM.
Ben Seguir.
Et là, l'OM, rien à voir. Eux, tu les as récupérés là où tu les as laissés. Une intensité tout de suite dans le match, toujours la même générosité, plein de situations aux abords de la surface de réparation, une volonté d'aller chez l'autre, de bousculer, de faire le pressing, de récupérer dans la première période, mais j'ai un peu moins vu la deuxième puisqu'on est arrivé et puis il y a eu Pelé, on a beaucoup parlé de ça, mais j'ai pas chronométré le temps qu'il mettait à récupérer le ballon, mais je suis pas sûr que c'était ultra rapide.
Mais comment tu l'expliques ça? Pourquoi Marseille et pas les autres?
Ah, j'ai pas d'explication sur pourquoi Marseille et pas les autres. C'est en tout cas le constat, c'est que ça m'a choqué la différence d'état de forme, de volonté de jouer. En plus, t'as la particularité de pas y être titulaire d'entrée. Alors que depuis quelques jours, on nous disait, et si la deuxième partie de saison, c'était celle de Payet? Mais tu sais, ce genre d'article ou ce genre de promesse, tant que je vois pas, ça veut rien dire. Le match arrive, Payet est titulaire. Rien que ça, c'était déjà une information, tu vois. Ils ont pas Veretout, ils ont pas Guendouzi, leurs deux mondialistes. Mais t'as vu aucune absence. Tu n'as vu que des bons joueurs. Un début de match incroyable de Rongier qui était partout. C'est lui qui met le premier but. Ça partait dans tous les sens. Le dynamisme, la générosité, le pressing. C'est l'OM des gros matchs que j'ai vus depuis le début de la saison. Franchement, je les ai trouvés impressionnants. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Vraiment. En plus, que des super buts, ils ont mis en plus.
Ouais, je pense qu'il y a, un problème sur cette reprise, sur la façon dont tu l'abordes, effectivement. On le voit selon les équipes. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent à rentrer très directement. Donc ça, après, je pense pas que ce soit lié forcément à tel ou tel climat. C'est plutôt peut-être les coachs qui ont réussi pour certains à vraiment mettre leur équipe immédiatement en mode première, deuxième, troisième vitesse, et d'autres non. Parce que même Toulouse, certes, l'OM était bon, mais j'ai pas reconnu non plus Toulouse dans l'intensité qu'ils étaient capables.
Après, Toulouse,
ils
étaient moins
mettre.
Bien même avant la trêve, hein, déjà, hein, Flo. Hein.
C'est vrai. Et finalement. Marseille a été très bon dans ce qui est très très fort. Je pense que Tudor y est pour beaucoup, parce que là je pense que dans ce cadre là les coachs, tu vois, je prenais l'exemple de Brest contre Lyon. Je suis désolé pour le coach de Brest, mais moi ce que j'ai vu défensivement contre Lyon, c'est pas possible, en dehors du fait que Lyon a été plutôt bon, mais tu peux pas ne pas presser, tu peux pas ne pas être sur le porteur, tu peux pas faire tout ça. Bref, il y a des équipes qui font encore ça, ce genre de match complètement raté. Et il y en a d'autres qui, à l'inverse, comme l'OM, le font pas. Donc c'est un peu comme ce qu'on disait sur l'exigence et sur la nécessité d'avoir tous ces mecs à bloc et qui courent. Avec Tudor, je pense que t'es tu as cette garantie-là, par exemple. C'est-à-dire d'avoir tout de suite une équipe à bloc. Et puis, je remarque aussi, sur ces 6 buts, c'est typique aussi de cette équipe-là et du jeu de Tudor, puisque justement, ils n'ont pas vraiment de très bons attaquants. C'est la répartition des buts. Tout le monde marque. Ouais. Tu as même Rongier, tu vois, c'est un
sensing. T'as que des buteurs différents ce soir encore.
Puis toi, les remplaçants, effectivement Rongier qui marque jamais, Kolasinac, enfin, c'est aussi un symbole.
Et c'est marrant, il met 6 buts juste, et le meilleur buteur de la saison de l'OM n'a pas marqué ce soir, c'est Alexis Sanchez.
Ouais, c'est ça. Il a laissé d'ailleurs parce que Under lui a demandé le péno parce que c'est lui, je pense, qui devait le tirer a priori. Ils se sont arrangés. Et si tu veux, c'est le symbole typique d'une équipe totalement collective, avec y compris d'ailleurs cette gestion Payet que il a mis dans le système. Ça a été compliqué peut-être à avaler pour Payet, mais Payet l'a accepté. Là, il se retrouve titulaire un peu, enfin de manière un peu surprenante, mais voilà, il a mis, en gros, il a concerné tout son groupe. C'est une équipe collective, ce qui va manquer toujours dans des matchs plus importants de poids devant, de vrais attaquants devant. D'autant qu'on parle de possible départ peut-être de Sanchez, je sais pas si ça va se vérifier. Mais voilà, c'est rassurant. Et j'ai regardé quand même, c'est la première fois depuis longtemps qu'ils mettent 6 buts. Hein. En tout cas, cette saison, ils l'ont pas fait. Ils étaient montés à 4. C'est pas totalement anodin parce que effectivement, ils marquent un coup en remontant sur le podium avec cette victoire.
On accueille Idir, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Idir.
Salut tout le monde.
Alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, Idir, de ce 6-1 face à Toulouse ce soir?
Ils ont mis de l'intensité, ils ont mis du rythme, ils ont pressé très haut, il y avait beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Voilà. Et je crois que jouer un match par semaine, ça va faire du bien à l'OM. Hein.
Ah ça oui, surtout pour pratiquer un tel football, ça c'est sûr que le match hebdomadaire, ils peuvent à tous les matchs reproduire cette intensité-là. Franchement, en jouant de cette façon, la deuxième place, ils sont plus que candidats. Pour moi, ils l'ont toujours été depuis le début de la saison.
Ils ne sont pas s'enflammer, hein. Rester prudent parce que nous,
honnêtement, je crois pas m'enflammer en disant qu'ils ont largement les moyens d'aller chercher cette deuxième place. Hein.
Ouais, la deuxième place, mais après. C'est le minimum, ça, la deuxième place.
Et ils ont un début une reprise un peu assez confortable, entre guillemets, hein, en termes de calendrier, puisqu'ils vont à Montpellier, même si Montpellier a gagné.
Ah, Montpellier, ça va être dur. Hein.
Ils vont à Troyes avant de recevoir Lorient.
Il y a Nantes aussi, je crois.
Non mais les matchs, il faut les jouer. Hein. Faut pas. Moi, avec Marseille, le problème, à chaque fois, tout le monde fait des match par match, il faut prendre.
Oui, mais dis-moi, toi, t'es pas sur le terrain, parce que ça, c'est les joueurs de foot qui parlent comme toi.
Hein, non, mais voilà, faut pas s'enflammer. Mais...
Non, mais Idir, tu veux pas t'enflammer, mais t'as bien un objectif en tant que supporter.
Personne ne s'enflamme. On est juste en train de dire que la prestation de ce soir, qui n'est pas unique dans la saison de l'OM, c'est pas le seul match qu'ils ont joué comme ça. C'est pas le seul match qu'ils ont joué avec cette intention-là. C'est pas le seul match où ils ont eu autant d'occasions que ça et où ils ont eu la même générosité. Il y a une continuité dans ce que fait l'OM depuis le début de la saison. Il y a eu une période dans cette année où il y a eu un peu moins de réussite. Et parfois, peut-être même, j'irais même jusqu'à dire un peu moins d'intelligence, notamment dans ce fameux dernier match de Ligue des Champions, où on s'est dit à ce moment-là que l'OM allait peut-être s'enfoncer derrière ça. Dans la foulée, rappelle-toi, juste avant la Coupe du Monde, il y a eu de nouveau des belles prestations avec ce dernier match contre Monaco. Et là, après ce break, ça repart et tu retrouves le même style, tu retrouves la même envie, la même détermination. C'est pas s'enflammer de dire que cet OM-là, avec ses qualités-là et ses intentions-là, d'abord vise la deuxième place. Évidemment, c'est un minimum comme tu l'as dit. Et deux, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Si, les raisons qu'ils n'y arrivent pas, c'est que Lens continue d'être très fort, que Rennes soit fort, ça va être la beauté de notre championnat. Mais Marseille a les moyens de jouer la deuxième place jusqu'au bout. Avec cette qualité de football et cette envie-là, et en plus avec le fait de jouer un match par semaine, parce que ça n'était pas le cas avant la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'atouts en faveur de l'OM quand même.
Et la Ligue des Champions leur a donné aussi de l'expérience, parce que maintenant ils ont appris avec la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, maintenant, ils vont plus paniquer pendant les grands matchs. Ils savent comment les préparer.
Si tu parles des grands matchs, attention quand même, parce que si tu regardes les stats même de ce soir, c'est intéressant, parce qu'ils se sont tombés sur une équipe qui de toute façon ne ferme pas le jeu, hein, d'ailleurs Toulouse en règle générale. Et si tu regardes, c'est assez partagé en possession, c'est assez partagé en nombre de tirs et même de tirs cadrés. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont eu parfois du mal aussi contre des équipes qui jouait plus bas, tu vois, qui se livrait moins. Donc c'est vrai qu'il va falloir voir comment l'OM s'en sort.
Il a toujours le même système. Toujours le même système avec des pistons, ils sont jamais, il peut pas passer en 4-3, il peut pas, il est toujours le même système, l'entraîneur. Toujours. Et là, Véron, il avait le même système, il va mourir avec son système.
Aujourd'hui, les entraîneurs qui varient, pas des minces, hein. La plupart, quand t'as une équipe et qu'elle est en place et qu'elle gagne les matchs.
Oui, après, c'est pas déconnant, ça fonctionne. Donc
qu'elle est classée de cette façon, qu'est-ce que tu veux? En fait, tu veux changer quoi? Je comprends pas. Tu fais un ajustement en cours de match en fonction de l'événement, mais c'est qui les entraîneurs qui varient les systèmes d'un match à l'autre?
Bah, mettons, tu fais juste passer une équipe bloc bas, c'est difficile de.
Et bah, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi?
Par exemple, c'est pas la peine de jouer à trois défenseurs si t'as un attaquant à surveiller devant. Tu mets un attaquant en plus devant.
Voilà. Et un attaquant en plus, ça veut pas forcément dire que ça va. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu vas mettre un attaquant de plus que tu vas plus défoncer la défense.
Tiens, juste puisque tu parles d'offensif, Fidir, j'aimerais juste avoir ton avis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la gestion de Payet de la part de Tudor? Alors Payet a parlé cette semaine. Il a fait une interview à La Provence où il a dit tiens, quelques années en arrière, j'aurais peut-être vrillé, mais là, en gros, je suis devenu plus mature. J'ai compris le message. Faut que je travaille plus. Voilà, il fait preuve de maturité dans ses déclarations.
Mais moi, je crois que c'est pas personnel parce que Payet, il défend pas. Et Tudor, il a besoin de dans son système que tout le monde défend. S'il y a un joueur qui défend pas dans ce système, là aujourd'hui face à Toulouse, ça va, ça passe. Mais face à des grands matchs,
et ben comme tu réclamais une adaptation, et ben l'adaptation, on l'a vu dans la première partie de saison. La plus grande de ces adaptations, déjà, c'est de ne pas avoir fait jouer Payet, notamment par rapport à ce que tu as dit, à savoir ses défaillances défensives. Là, il a joué ce soir, et peut-être que, je sais pas, moi, la semaine prochaine, c'est pas le cas, mais imaginons, il y a un match contre Lens, peut-être que c'est pas Payet qui jouera à ce moment-là, j'en sais rien. Mais l'adaptation, elle viendra peut-être des choix des joueurs, plus que de la tactique.
Allez, on poursuit le débat dans quelques instants. Edir, merci de nous avoir appelés. Salut, bonne soirée, Edir. Marseille, qui s'est imposé 6-1 face à Toulouse. On vous attend en 32-16. On va évoquer Nice et Lens également dans quelques instants. Rennes, qui s'est incliné 3-1 face à Reims. On vous attend avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau au 32-16. A tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
23h28, vous êtes dans l'after sur RMC avec Laurent Gautreau, avec Daniel Riolo. On est en train d'évoquer les affiches de Ligue 1 de cette soirée, la victoire de Marseille, notamment 6-1 face à Toulouse. Tiens, Flo, tu disais tout à l'heure, c'est pas si courant que ça de voir Marseille marquer 6 buts dans un match. Alors j'étais en train de regarder, il y a peut-être eu un oubli dans mes archives. La dernière fois que Marseille a marqué 6 buts, c'était en février 2018, donc ça fait quasiment 5 ans, face à Metz, victoire 6-3. Donc c'est
rare de mettre 6 buts, hein.
Oui. Ouais, c'est pas très
et
bon,
sans un arrêt de Dupé à la fin, ça faisait 7.
Exactement. Il aurait fallu remonter.
Sans son triplé de Thauvin, Germain Nico, il fallait qu'il fasse d'autres recherches.
Putain, j'aurais dû aller encore plus loin là. Sans son triplé de Thauvin,
7-1,
Germain
à part Brésil-Allemagne.
Non, parce que avec les recherches qu'il a fait, il les a fait sur les 6 buts. Ça se trouve, entre temps, il y a eu un match avec 7. Mais il a pas cherché ça.
Quand même, il est pas si dur.
Regarde, vas-y, non, c'est au moins 6 buts. Et il y avait eu un 9-0 aussi après, face à Bourg, en Coupe de France. Voilà, si vous voulez savoir. D'ailleurs, c'est celui-là, dernier,
parce qu'il dit bien Bourg.
On dit Bourg, ouais, je suis déjà allé là-bas. Je sais qu'ils disent Bourg.
Ah, c'est bon.
C'est-à-dire ça, la dernière fois qu'ils ont marqué au moins 6 buts, c'était le 9-0. Morgan, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Il était au Vélodrome ce soir. Salut Morgan.
Bonsoir tout le monde.
Salut Morgan.
On sent la joie dans ta voix, Morgan.
Mais c'est Morgan Amalfitano qui a joué à l'OM.
C'est possible.
Ouais, j'aimerais bien. moi je respecte tous les avis, mais comment être critique ce soir sur un système? Je parle du supporter qui est intervenu juste avant. Je respecte tout le monde, mais marronner sur un système parce qu'on joue à trois défenseurs contre Toulouse, mais on en met 6. Je veux dire, c'est compliqué de faire mieux. Moi, le gros regret que j'ai, c'est le dernier mois catastrophique qu'on a eu avant la trêve, et ça fait maintenant presque 25 ans que je suis abonné. J'ai pas beaucoup de souvenirs où, en plus, après ces défaites-là, je rentre frustré à la maison. J'en veux même pas à mon équipe parce que je repense au match de Lens, au match à Strasbourg.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Ça joue très bien. Et on est malheureux sur quelques occasions. On met pas au fond les petites occasions qu'on doit avoir. Et j'ai d'autant plus de regrets que, sans parler de jouer le titre avec Paris, je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus d'espoir sur la deuxième partie. Si on n'avait pas foiré ce dernier mois, on aurait été pas très loin.
Et tu sais, Morgan,
honnêtement, je rejoins Daniel sur le sujet que, pour la deuxième place, c'est ce que j'avais dit moi en tout début de championnat, et je suis quelqu'un d'habitude plutôt pessimiste sur l'OM. Je vois pas qui peut nous embêter pour la deuxième place. place. Alors le mois de décembre m'a donné tort, le mois de novembre plutôt, mais au jour d'aujourd'hui, si ça repart comme ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui peuvent nous compliquer la tâche sur un match, je trouve.
Mais tu sais Morgane, je vais te dire, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, au final, c'est pas un mois. Moi, je suis sûr que tu vas me rejoindre. S'il n'y a pas ce but à la dernière seconde de Tottenham, et il y a ce match nul, et que tu fais troisième de la poule, et que les autres matchs de championnat, oublie-les. Ça redémarre comme ça, a redémarré ce soir, et tu sais que tu vas jouer l'Europa League dans un mois. T'es content.
C'est un cauchemar ce match, Daniel.
C'est ce dernier but et la gestion de ces 10 dernières minutes par le banc, par le staff et ce but qui tombe comme ça. C'est celui-là, parce qu'à la limite, les autres matchs, je suis sûr que tu peux même les oublier. Parce que bon.
Le match de Lens, il est dur, Daniel. Le match de Lens, il est très
ouais,
dur.
Ouais, mais je suis sûr que tu l'oublies si t'as pas cette connerie-là. Parce que le titre, au final, ça semble quand même, tu vois, bon, un peu plus illusoire d'imaginer que bien tu vas. Mais je suis sûr que t'échanges tout contre ne pas prendre ce putain de but à la fin. Être troisième, aller jouer l'Europa League et redémarrer comme t'as redémarré ce soir. La première partie de saison, moi je la trouve très bonne de l'OM. C'est la première partie de saison. Je la trouve très bonne. Il y a juste ces 10 minutes de la fin contre Tottenham qui quelque part engendre une frustration, une sorte de cicatrice qui est chiante à vivre, quoi, tu vois.
Complètement, c'est exactement le mot que j'allais employer, cicatrice. Ouais. Ça fera partie des matchs comme l'égalisation de Cavani à la 94e sur le coup franc. Ça fera partie des matchs qui sont horrible à digérer, qui ne se digère pas. Et d'ailleurs, ce qui est d'autant plus dur, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus regarder Tottenham. La dernière fois, hier ou avant-hier, il y avait la rediffusion du match de Tottenham. Je ne peux plus le voir. Tellement ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et d'autant plus dur que j'adore Kolasinac. Je trouve que c'est un super joueur.
Il a mis un
excellent
but ce soir.
Super mec qui se bat. Et c'est dur. Et d'ailleurs, quand ils sont tous allés sur lui à Monaco, je m'en fous de sa tête à Monaco. Je vous dis honnêtement, j'échange 10 fois sa tête à Monaco contre sa tête contre Tottenham.
Ouais, mais c'était l'effet d'un groupe qui justement voulait lui témoigner sa.
Oui, non, mais c'est super. Comme
moi, je trouve que l'image est belle. Hein, Flo a raison. C'est quelque part, c'est là que tu vois que l'OM, ça se passe très très bien, quoi.
Exactement. La réaction du groupe est super. Et la parenthèse que je voulais faire, ce que je ne comprends pas sur un match comme ça. Ok, on gagne 6-1. Il y a eu des changements. On est tous d'accord pour dire qu'il y a eu des changements en deuxième mi-temps.
Ouais.
Pourquoi il n'y a pas de temps additionnel? Si la deuxième place, elle se joue.
Je suis d'accord. Alors c'était un détail. C'était un détail, mais vous savez que c'est une de mes marottes que j'ai été suivi. Et pourtant, sans être consulté, à moins que les gens aient écouté la vie tranchée du mois d'octobre dans l'after, ce qui m'étonnerait à la FIFA.
C'est possible,
mais alors vraiment, ce serait génial. Parce que c'est un de mes combats d'avoir du temps additionnel en veux-tu-en voilà. Et là, en fait, l'arbitre a fait un truc.
Donc ça t'a plu, la Coupe du Monde là-dessus? Puisqu'on en a parlé ensemble de ça.
Ah, mais un rêve total.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a plu aussi.
En fait, si tu veux, le gars qui dit, il y a 3 minutes, admettons, ok. Tu sais que les gars truquent pendant 3 minutes, tu leur dis, il y a 3 minutes. Parce que t'as truqué pendant 3 minutes, t'as fait ton lacet, t'as fait ton machin, tu ne laisses plus passer ça. Eh bien, ce soir, c'est encore autre chose, un truc que j'ai joué assez rarement quand même en pro. L'arbitre a arrêté à cause du score, j'ai l'impression. C'est-à-dire, par pitié pour Toulouse. Alors, ça ne se fait pas.
Ça avait été la même, le PSG en Ligue des Champions contre le Maccabi.
Ouais.
Ou à l'arrivée, ouais, c'est pour un but que Benfica, enfin un ou deux buts que Benfica a fini devant.
Et d'un coup,
on s'est tous remémoré le match en disant, bah tiens, pourquoi il a pas laissé d'arrêt de jeu? Ça se trouve, le PSG aurait pu mettre 2 buts de plus.
Tu sais, on a toujours dit, petit, je me souviens de cette histoire-là, quand tu avais des scores plus larges dans certains matchs, et les coachs le disaient même en pro, ça manquait de respect à l'équipe adverse que de ne pas aller chercher à mettre le but supplémentaire. Bah moi, je trouve que là, l'arbitre, c'est un manque de respect pour plein de choses. Il a raison, Morgane a raison, sur le classement pour la suite, mais même sur le jeu. Bon, même si c'est 2 minutes, 3 minutes, peu importe. J'ai été effectivement assez surpris. Bon, c'est un détail. J'espère que ça reste.
Puisque tu parles de ça, Flo, ça permet quand même une petite ouverture d'un autre débat. Ce que tu dis là, en gros, c'est ça doit être décidé par des arbitres. On a vu qu'il y a eu de vraies nouveautés dans l'arbitrage pendant cette Coupe du Monde. Il faudra qu'on en parle dans un after de la rentrée. La façon d'arbitrer, elle a été très spécifique. On a beaucoup laissé jouer. Et ce qui a marqué les esprits, c'est ce temps additionnel. Colina, le patron des arbitres à la FIFA, a réuni les mecs avant la Coupe du Monde en passant des instructions qui ont été suivies. Les arbitres se sont adaptés. Ce à quoi je voulais arriver, c'est que pour qu'il y ait une éventuelle réforme, Flo, qui aille dans ton sens, encore faudrait-il qu'il y ait un patron des arbitres en France. Or, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la Fédé, plutôt que d'envoyer des lettres pour chouiner sur les Argentins, elle devrait travailler et elle ne travaille pas. Noël Le Graët a reçu Didier Deschamps aujourd'hui à Guingamp. Ils ont discuté, mais Noël Le Graët, qu'est-ce qu'il fout pour les arbitres? Il y a pas, on a changé, Gary Bian s'est fait virer.
Ouais.
Il n'y a pas eu de successeur nommé. Le championnat a repris hier. Il n'y a pas de patron des arbitres, comme si c'était pas important, comme s'il n'y avait pas des consignes à passer, comme si chacun faisait ce qu'il voulait dans son coin et arbitrait comme il avait envie d'arbitrer. Il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de patron des arbitres. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais ça, c'est un vrai problème. Alors, on en parle peu, parce que les arbitres, on a toujours l'impression, je suis désolé, les arbitres, et on l'a vu pendant cette Coupe du Monde, c'est important. Ça donne un ton au match, ça donne même un ton à une compétition, parce que cette compétition, qu'on a aimé. Il y a eu beaucoup de matchs. En plus, on revient pas sur la façon dont ça s'est terminé, mais il y a eu un ton. Il y a eu une couleur de l'arbitrage. Et c'est Colina qui l'a donné dans des réunions où ils en ont discuté. Nous, en France, bon, on a eu ce début de saison où les cartons rouges ont volé dans tous les, dans tous les sens. Encore hier. À la Coupe du Monde, on a vu qu'on a réduit le nombre de cartons. C'était une volonté. Quelle est la volonté de l'arbitrage français? Quelle est notre ligne directrice? Où on va? Quel est le ton qu'on veut donner à notre football? On ne le sait pas.
Et en plus,
parce que Noël Le Graët, il boit du champagne, il continue de faire la fête avec Deschamps à parler de la Coupe du Monde à Guingamp là toute l'après-midi, et il ne fait pas son travail. Son travail, c'est de gérer le football français, en tout cas pour la partie, puisque l'arbitrage dépend de la 3F, et il n'y a pas de patron de l'arbitrage en France. Et les arbitres s'en plaignent, hein. Les arbitres, ils savent pas. Ils savent pas quoi faire. Il n'y a pas de patron. C'est dingue.
Juste en
c'est
dingue. On remercie Morgane qui nous a appelé au 32-7. Juste Flo, pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure,
je sais pas ce que vous pensez de ce que je viens de dire, mais...
Tu parlais de ton avis tranché au mois d'octobre, mais ce qui est fou pour en venir à ce que tu dis également, c'est qu'il y a eu un nombre d'articles, de propositions, d'analyses qui ont été faites en début de saison dans l'ensemble de la presse, que ce soit écrite, hein, radio, sur RMC, mais pas que, l'équipe, mais d'autres, hein, médias encore, autour de l'arbitrage. Et c'est vrai que, réponds à ce que dit Daniel, c'est vrai, Flo. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a finalement pas de, alors, de réflexion, elle existe certainement, mais il n'y a pas de décision, en tout cas,
le 10 novembre. Gary Bian et Duhamel ont sauté le 10 novembre.
Ouais.
On est le 29 décembre, il n'y a pas de successeur.
Le truc, effectivement.
Comme si ce n'était pas important.
Vas-y, non seulement il faut un successeur, mais il faut un successeur qui incarne la fonction. Les noms que j'ai entendus, je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais et qui communique. Je pense que doit y avoir une réforme supplémentaire, et malheureusement, je ne pense pas qu'elle puisse être menée par Le Graët. C'est pour ça que si par hasard, si par bonheur, on va dire la volonté de la ministre qui n'est plus qu'un secret de polichinelle de voir l'aventure Le Graët se terminer, eh bien aller à son terme, eh bien ça pourrait permettre une petite révolution à ce niveau-là aussi. Parce que ce qu'il faut, c'est une vision, comme l'a dit Daniel, incarné par quelqu'un qui va l'expliquer.
Si tu expliques
ce que l'on est en train de dire bah oui, on va s'adapter comme à la Coupe du Monde, on va plus faire jouer de temps additionnel. Pas forcément 10 minutes, 11 minutes, mais
on va décider, est-ce qu'il y a plus ou moins de cartons, voilà. Est-ce qu'on laisse
jouer?
Il y a des observatoires qui sont mis en place avec DTN, des entraîneurs qui en discutent. Je vous donne l'exemple. En Espagne, au Portugal, c'est ce qu'ils font, hein. Les entraîneurs se réunissent, ils discutent entre eux, comme fait l'UEFA d'ailleurs.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, en France, il y a eu pas mal de réflexions.
Si tu fais pas de la part des instances, c'est ça que je veux dire.
Non. Je suis d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que les idées, il faut maintenant en faire une synthèse pour avoir une vision. Si tu décides d'avoir un arbitrage, c'est que derrière, tu vas faire décliner, cette façon d'arbitrer aussi dans les divisions inférieures et chez les plus jeunes. Et tu vas par exemple décider de laisser jouer. Tu vas par exemple décider de faire plus d'avantages. Tu as raison de dire peut-être moins de cartons. Parce que le reproche qu'on a fait à l'arbitre de la finale, que moi j'ai défendu d'ailleurs le soir même dans l'after et le lendemain, y compris sur BFM TV, c'est qu'on lui a fait le reproche de trop laisser jouer, de ne pas mettre assez de cartons. Ça peut s'entendre par rapport aux Argentins qui pouvaient continuer à faire des fautes. Mais sa volonté, c'était pas de favoriser les Argentins. C'était qu'il était dans une logique, il avait un style. Comme on parle d'un style pour un entraîneur. Cet arbitre, il avait un style.
T'as bien raison.
Il a un style. Son style, c'était ça. Et moi, j'aimais son style. Alors évidemment, on peut trouver des défauts. Il a oublié un avantage à la fin. Oui, c'est vrai. Il a oublié un avantage pour les Français. Personne ne sait s'il y aura but ou pas. On peut le critiquer là-dessus ponctuellement. Parce que comme tout entraîneur qui a un style, il peut être critiquable dans son arbitrage. Mais au moins, il peut pas être critiquable dans l'idée qu'il ait une vision ou pas. Il en avait une.
Et même au-delà même de Martignac, jouer. Toute la Coupe du Monde a eu un style. Il y a eu un style, on peut en parler, mais c'est intéressant d'en parler.
Il y a une cohérence, ouais.
Est-ce qu'on aime ou pas ce style-là? Il y a un vrai débat. C'est vrai que j'ai revu des contacts que j'avais pas vu depuis très longtemps dans le football. Et j'ai même, grâce à ça, revu des styles. Le style sud-américain, argentin, je l'ai retrouvé. Comme j'ai retrouvé des choses du football.
Non, je trouve que c'est critique. Alors moi je suis fan, mais je reconnais aussi que la seule critique qu'on puisse apporter à ce genre d'arbitrage, en l'occurrence, c'est intéressant, puisqu'il faut trouver justement la limite, c'est que si tu ne mets pas un carton à un joueur qui, sans faire une faute énorme, par exemple, mais stoppe les actions au milieu de terrain dès qu'il y a une contre-attaque. Si tu mets pas de carton, à un moment donné, il va continuer à stopper
les actions.
Après,
moi, j'ai vu des différences, quand même.
Donc,
tu trouvais des styles quand t'avais Michael Oliver, l'anglais, qui sifflait. Tu disais, faut vraiment que le mec, il le tacle à la gorge pour que le carton, il sorte. Non, mais c'est vrai. Tu retrouvais ça, quand même. T'avais des tendances, quand même. T'avais des sensibilités.
Absolument.
Mais en tout cas, à chaque fois, il faut que les choses soient assumées.
Exactement.
Quand Marcignac, il regarde un joueur, il a fait un truc qu'on appelle aussi de nos voeux depuis des années. Il leur a dit, au bout de 10 minutes, il a fait un geste avec son doigt sur la bouche, en disant, en parlant à des mecs qui n'avait rien à faire là, hors capitaine, les mecs, ils ne mouffetaient pas. Et il a fait aussi un truc à l'ancienne. On lui a reproché, justement, de ne pas être allé voir l'écran de la VAR. Lui, il a arbitré avec ses sensations, et plutôt bien. Je reviens, même si tout le monde n'est pas d'accord, sur ce que j'estime être une simulation de Thuram, même si oui, contact. Il a décidé, en son âme et conscience, sans les bretelles de la vidéo, avec évidemment le risque qu'il a pris dans la gueule derrière sur les réseaux sociaux, de se voir reprocher de ne pas être allé consulter. En fait, il arbitrait, entre guillemets, à l'ancienne, mais peu importe, si c'est assumé par un patron comme Colina, si c'était assumé en France par quelqu'un qui disait derrière à une journée où il y aurait une polémique, en disant, mais nous avons décidé d'aller dans cette direction-là pour laisser de la place au jeu, etc., etc. Ouais. Nous avons décidé de laisser du temps additionnel parce que l'on perd trop de temps en jérémiade. Nous avons décidé de sanctionner plus durement tous ces attroupements de joueurs inutiles parce que je pense que ça, c'est un fléau absolu. C'est relativement simple si, effectivement, il y a un patron qui te soutient. Et si c'est expliqué, il n'y a pas que le fait qu'il y ait un patron, comme le dit Daniel. Il y a aussi, je pense, derrière, un travail de communication. Je ne réclame pas à corps et à cri que les arbitres, à chaque fois.
Non, mais je suis d'accord. Gary Bian n'en parlait jamais. Il faut qu'il y ait un patron, qu'il y ait une autorité et un dialogue.
On va revenir sur notre bonne vieille Ligue 1. On va évoquer notamment le match entre Nice et Lens et Reims et Rennes. Vous voulez commencer par quoi d'ailleurs? Rennes ou Lens?
Reims-Rennes.
Allez, Reims-Rennes. On fait ça juste après ça, justement.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, suite de la 16e journée de Ligue 1. Montpellier qui a battu Lorient 2-0, victoire de Marseille 6-1 face à Toulouse, 0-0 entre Nice et Lens. Et Rennes qui s'est incliné 3-1 face à Reims. Flo, tu voulais évoquer ce match notamment. On rappelle, Rennes qui du coup laissé sa place au classement à Marseille qui bascule à la 3e place. On avait laissé Rennes en grande forme avant la Coupe du Monde, avant cette vraie fausse trêve, si on peut appeler ça une trêve d'ailleurs. Les Rennais, ils ont été méconnaissables ce soir, Flo.
Oui, j'étais en train de recompter 16, 17, voilà. 17 matchs sans défaite. Et la dernière défaite, fin août, contre Lens. T'imagines, quand même. Donc, c'est pas anodin non plus, cette défaite de Rennes. Ça leur arrive parfois. Hein. Normalement, c'est suivi. T'as un tout petit bout de mou, puis c'est suivi par une autre série. Mais ce qui a été flagrant.
On s'y attendait pas beaucoup, quand même, hein. Là, c'est.
On s'y attend pas. Mais rappelle-toi le début de saison. En fait, tu retrouves des mots que tu as eu au début de saison quand, c'était d'autres raisons, à mon avis, hein. Bourigeaud la tête ailleurs, il n'a pas eu son transfert, ouais. Maillère qui est parvenu en forme, etc., etc. Donc tu n'avais plus ça. Là c'est un peu la même chose et un peu différent. C'est terrible et Genesio va être fou furieux. Hein. C'est l'impact. Parce que ce qu'on ne voit pas, on parle beaucoup de Rennes et de son jeu de passe, tu sais, son jeu flamboyant, offensif. C'est vrai. Mais les gars, ils courent, ils pressent beaucoup. Et aujourd'hui, il ne pressait pas, il ne courait pas suffisamment. Genesio était effondré sur son banc. Il y a un truc, d'ailleurs, il faut le souligner, chez nos confrères de Prime, tu sais, c'est la petite interview pendant le match, qui a été dealée, à mon avis, avec les coachs. Donc, il a répondu pendant le match à un truc pour dire pourquoi il avait fait les changements. Je peux te dire qu'il a laissé passer un message très clair sur l'idée qu'il n'avait pas du tout aimé parce qu'il n'y avait pas de duel gagné. Il n'y avait même pas de volonté d'aller au duel. Et cette équipe de Rennes, et c'est bon pour toute équipe, tu la loues souvent pour ce qu'elle fait de beau dans le jeu, le nombre de passes, la qualité technique de ses attaquants, Terrier notamment. Mais tu oublies de dire qu'avant cela, comme dans toute équipe d'ailleurs, il y a la récup, comme c'était le cas pour le Barça, comme c'est le cas pour toutes les équipes qui veulent après faire du beau jeu. Et là, il n'y avait pas ça. Et à l'inverse, le petit entraîneur là, de, belge de Lille, de Reims, lui il demande beaucoup ça en fait. Et au final, un match de foot, t'as beau avoir le talent de ton côté, si tu mets pas cet impact là, ça ne marche pas. Donc en fait, il arrive un truc à Rennes qui leur arrive de temps en temps, qui leur montre que ce jeu pour eux est exigeant, cette façon de jouer, parce qu'elle nécessite, avant même d'aller déployer ton jeu de passe, elle nécessite de gros efforts de récupération. Il y a aussi des changements hein, qui
moi j'ai une question à te poser Flo, parce que comme c'est une équipe que tu connais très bien et que tu regardes beaucoup, t'es revenu sur leur début de saison et effectivement t'as dit c'est pas forcément pour les mêmes raisons et t'as évoqué quelques raisons, notamment Bourigeaud tête ailleurs et un ou deux départs devant notamment, mais il y avait le dossier de la charnière centrale en début de saison, tu te souviens quand ils ont associé Théâtre à
Rodon.
Et on s'est dit,
quand j'avais dit qu'il disparaîtrait et que ce serait au mari quand
les deux ont mis du temps, mais les deux se sont finalement installés et ont fini par constituer une charnière centrale efficace.
Ouais, Rodon, c'est pas totalement installé.
Alors j'arrive à ma question. Ce soir, après une très longue absence, au mari est revenu. Au mari a joué, a été associé à Théâtre et ils ont pris 3 buts. Alors évidemment, on va pas faire de lien immédiat, mais est-ce que remettre en place une nouvelle charnière, puisque c'est une nouvelle charnière centrale qui a été mise en place ce soir, deux mecs qui se connaissent pas, en gros. Est-ce que, finalement, si tu étais dans la continuité de ta très 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 belle série et d'une équipe de Rennes qui était en train de gagner et de viser le tout haut du classement, est-ce que redémarrer, je sais pas quelles sont les intentions de Genesio, est-ce que le prochain match il continue maintenant avec Omari qui redevient titulaire indiscutable dans cette équipe, c'est-à-dire il recommence avec une nouvelle charnière, est-ce qu'il y a pas une prise de risque là?
Alors, je vais te dire ce que je pense depuis le départ, c'est que pour moi, Rodon n'est pas une bonne pioche et que la charnière,
elle commençait à avoir de l'allure, leur charnière, ça commençait à tourner,
Non, mais Rodon apportera justement pour le coup de l'impact et de l'importance sur les coups de pied arrêtés, offensifs, défensifs, mais pas assez dans le reste du jeu. Omari, à l'inverse, apporte beaucoup de fragilité parfois parce que il y a une prise de risque chez ce jeune joueur, mais c'est lui l'avenir de Rennes. Et la charnière, et Théâtre est un jeune joueur également, qui est déjà arrivé plus loin, qui est international chez les Belges. Pour moi, par rapport au matériel, entre guillemets, qu'il y avait, puisqu'ils ont raté.
Il doit mettre cette charnière et insister avec celle-là maintenant.
Pour moi, en tout cas, c'est la charnière qui était attendue, parce qu'Omari était blessé, c'est la seule raison.
Pas la seule raison.
On a dit, on va regarder Rodon quand même. Non, Rodon était à mon avis, trop décevant par rapport au type de jeu que Genesio veut mettre en place. Même si Omari a montré beaucoup de fragilité aussi l'an dernier, mais moi, je demandais de la patience pour un jeune joueur qui pouvait faire des erreurs, qui était parfois un peu trop facile, entre guillemets, balle au pied. Parce que ça, c'est la formation rennaise. Ce sont ces défenseurs-là. On rappelle que Badé, qui avait été recruté en charnière centrale, ne correspondait pas du tout, est en train d'être prêté, d'ailleurs, à Séville, en ce moment. Il était en Angleterre. Ça ne correspondait pas. Ceux qui correspondent, en tout cas, c'est ça. Théâtre, ils ont plutôt fait le bon choix, parce que c'était pas leur premier choix non plus, on se rappelle, ils étaient sur Kim Min-jae, mais c'est un bon choix parce qu'il correspond à ce style-là. Donc il faut pas tout jeter non plus, tu vois, ce soir. C'est le choc qui arrive parfois, tu prends une claque, ils se sont pris une bonne claque sur les fondamentaux du foot. Donc ça remet pas tout en cause.
Après, tu regardes les stats, après elles disent pas toujours la vérité, mais ils ont gagné plus de duels que Reims ce soir. Dans ce qui est le combat, ils sont pas en retard quand tu regardes les chiffres.
Je dirais que peut-être si les duel, c'est un terme un peu galvaudé, c'est dans le pressing. C'est finalement plus dans aujourd'hui c'est le pressing et le contre-pressing.
Après, ils prennent un troisième but qui est un peu gag.
Omari, tu vois, par exemple, qui est dans le mauvais coup, mais on peut pas le lui reprocher sur ce coup-là. Moi, je pense que ce que j'ai vu, c'est une sorte de piqûre de rappel pour Rennes. Mais néanmoins, pour faire le lien avec Marseille, eux ne vont pas jouer qu'un match par semaine. C'est le premier point. Et deuxièmement, je suis définitivement plus sceptique là aussi par rapport au type de jeu de Genesio pour Souleymana et Doku, parce que à un moment donné il faut avoir un peu de QI foot, un peu plus, et c'est pas eux qui en apportent le plus.
Les gars, on va parler un petit mot sur Lens quand même, parce qu'il nous reste 5 minutes dans cet after. Lens qui a fait match nul 0-0 face à Nice. Alors Lens qui reste deuxième, qui a 4 points d'avance maintenant sur l'OM. On rappelle l'OM qui a gagné 6-1 ce soir. Tiens, on va accueillir Julien, supporter de Lens qui nous attend depuis un moment et qui nous a appelé au 32-16. Salut Julien.
Salut Nico, salut Daniel et salut Florent.
Salut. Salut. Alors Julien, comment tu l'analyses ce match? Comment tu l'analyses cette reprise également pour Lens? Et puis est-ce que tu te projettes déjà sur la suite de la saison là?
J'ai trouvé la première mi-temps assez rassurante, ouais. Même si je trouvais quand même qu'on manquait d'un peu de tranchant, d'un peu de précision dans la dernière passe. Et je pense qu'on aurait pu mener 1-0 à la mi-temps, ça n'aurait pas été démérité.
Jusque-là, je suis d'accord avec toi.
En deuxième mi-temps, c'est un peu éteint. Deuxième mi-temps, on a été bon défensivement, mais offensivement, on s'est éteint et je pense que la sortie d'Onana pour faire entrer Openda n'a pas été forcément très productive parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver Openda en profondeur et on n'a pas eu beaucoup de présence au milieu de terrain, même si je pense que Fofana a fait un bon match, mais il n'a pas été suivi devant par Sotoka qui n'était pas très performant et les changements devant n'étaient pas terribles. Donc je pense que le nul est logique et après, sur la suite de la saison, à part le PSG qui a un match un peu à part, je reste optimiste dans le sens où il y a quand même des attitudes qui trompent pas et on les a retrouvées ce soir.
Qu'est-ce que vous en dites de ça, vous? C'est vrai qu'il y a toujours, alors c'est pareil, hein, on va pas faire du foot fiction, de la prédiction, de la voyance, mais ils sont là, hein, les Lensois, hein, installés à cette deuxième place.
Ah, mais moi, les Lensois, je les vois pas, je les vois pas craquer. Déjà, l'année dernière, ils avaient payé très très cher le cœur de l'hiver, mais finalement, ils avaient été régulier sur l'essentiel.
Alors, il va y avoir le PSG là, hein, qui va être un sacré test
de la saison. Mais le PSG, de toute façon, c'est un match à part. Hein. Quoi qu'il arrive, ils battent le PSG. Évidemment, c'est un super exploit pour eux. Et...
Non, mais c'est plus niveau comptable. Si tu perds, Marseille peut revenir à un point, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais de toute façon, à un moment, il faut bien le jouer, le PSG. Bah, donc, oui, ils vont voir des équipes revenir s'ils perdent le match. Mais comme j'estime qu'ils sont dans la lutte pour le podium depuis le début de la saison, les Lensois, ils le seront encore. Ils auront fait fondre leur avance, ok, mais on va dire logiquement, puisque la logique, c'est que tu perds contre le PSG dans ce championnat. Donc tout ce qui sera autre chose que la défaite, ce sera du bonus pour les Lensois. Le match contre le PSG, tu l'élimines en gros du calendrier. Si tu fais quelque chose contre eux, je sais pas, comme Rennes l'année dernière qui les avait battus là, c'est un bonus. Et d'ailleurs, souvent, des équipes qui font les bons matchs contre le PSG, c'est pas toujours révélateur de ce qui se passe derrière. Donc je pense que les Lensois, ils doivent... Évidemment, c'est un match de gala, mais ne tirer aucun enseignement de ce qui se passe dans un match contre le PSG, c'est plutôt une règle à suivre. Donc, moi, j'en reviens à ce que je disais. Les Lensois, cette année, je ne les vois pas craquer. Depuis le début, je pense qu'ils seront dans le coup pour le podium. Podium, ça va être dur, hein, parce que Marseille est un prétendant, Rennes aussi, Lens, il y a plus que deux places.
Lille.
Si on élimine le PSG, Lille peut revenir. Attention aux Lillois. Donc, je pense que cette deuxième partie de saison, elle va être passionnante. Podium et top 5. Et les Lensois, je les vois dans le coup jusqu'au bout. Et s'ils finissent pas deux ou trois, ce sera pas un échec parce que forcément ils vont être battus par des bonnes équipes. Donc ils finissent quatre ou cinq. De toute façon, Lens, au final, on dira ils ont fait une bonne saison. Lens, on peut. Tu disais on fait pas les voyants. Moi, je te fais le voyant. Ils vont faire une bonne saison. Et ce qu'on dira fin mai, c'est Lens a fait une bonne saison.
Ils font une bonne saison parce que. Puisque pour boucler la boucle avec le début de l'émission, on parlait de la façon d'arriver dans cette reprise de trêve. Eux, ils reprennent assez fort parce qu'ils sont plutôt bons à Nice, qui est une bonne équipe, parce que Nice est un petit peu sous-classé, on va dire, par rapport à son potentiel. C'est une équipe qui a perdu qu'une fois quand même depuis le début de la saison. On l'oublie, hein, mais c'est quand même frappant. Elle est très dure à battre. Donc comme je revenais tout à l'heure sur la façon de jouer, on aime beaucoup leur façon de jouer, mais c'est une équipe pareille qui se retrouve dans le combat, dans la volonté, dans l'abnégation, et elle a ces qualités-là encore ce soir. Donc Lens est reparti sur ses bases, comme tu parlais de l'OM tout à l'heure en début d'émission. C'est effectivement une équipe très très solide qui perd très peu. Donc moi je pense qu'ils ont plutôt marqué un point ce soir. Et après offensivement, on a toujours parfois cette petite tendance à être un petit peu, à rester sur notre faim. Hein. C'est ça qui va, à mon avis, qui va les coincer un petit peu. Je suis un petit peu plus sceptique sur la deuxième place maintenant pour Lens, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent offensif, par exemple du côté de Lille, même du côté de Monaco ou du côté de Rennes, pour aller marquer un peu plus de buts.
Je remercie à Julien de nous avoir appelé. Bonne soirée, Julien. Ouais, vas-y, très vite, il nous reste 15 secondes.
Juste pour finir, moi je pense qu'un objectif très ambitieux et raisonnable pour Lens, c'est la quatrième place, parce que la troisième, même problématique que Monaco la saison dernière, c'est que la troisième place, c'est le cul entre deux chaises pour le mercato, et la deuxième place, je pense que niveau Ligue des Champions, c'est quand même un peu trop gourmand. Donc je pense que la quatrième place, viendrait ponctuer une saison vraiment magnifique.
Merci Julien d'avoir été avec nous.
Merci les gars,
belle soirée à toi, belle soirée Julien. Merci beaucoup. Salut Daniel, toi. Merci
à bientôt.
Flo. Voilà, je vous rappelle.
Salut les gars.
L'information de cette soirée, Pelé, 82 ans, nous a quitté ce soir. Il s'est éteint au Brésil à l'âge de 82 ans. Donc veillée funéraire qui aura lieu lundi. Son cercueil qui sera exposé au centre du stade Villa Belmiro, le club du Santos. Il y aura ensuite un cortège dans les rues de Santos et une cérémonie qui sera dédiée à la famille. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, bien entendu, comme d'habitude, 20h pour l'after. Et toutes les informations, d'ailleurs, concernant Pelé, toutes les réactions également qui sont retrouvées sur rmcsport.fr. Bonne soirée, à demain, bisous, prenez soin de vous.
RMC, l'after foot. RMC, les grandes gueules.
Demain, ça sera la dernière des grandes gueules pour l'année 2022 entre 9h et midi. On sera toujours en direct, bien entendu, pour débattre de l'actualité avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, le prof d'histoire géo Kevin Bossuet et l'ancien flic du raid Bruno Pomard. À demain, 9h, en direct sur RMC.